tu vis en moi. Quelle joie, tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Merci mon Dieu. Roger, pour préparer ce culte, tu m'as parlé d'un verset qui faisait référence à une prédication d'Anne-Catherine.
La semaine passée, donc.
La semaine passée. C'était, vous vous rappelez? Pardon? Naboth. Ben oui, c'était Naboth.
Oui.
Bravo.
Le verset, tu aimerais le savoir?
Ouais. Oui, j'étais pas là dimanche dernier, mais j'aimerais bien le savoir, oui.
Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Donc, juste pour rappeler très brièvement, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, donc Naboth avait une vigne, et puis le roi Achab louchait sur cette vigne parce qu'il voulait en faire un jardin potager. Il est rentré à la maison tout attristé parce que Naboth a refusé de céder l'héritage de ses pères. Jézabel, la femme d'Achab, la mauvaise reine, a arrangé les choses en faisant tuer le pauvre Naboth. Et voilà que l'histoire serait terminée là, sauf que il y a un juge au ciel qui voit tout, et qui a envoyé Élie son serviteur pour dire ce qui allait se passer par la suite. Que l'Éternel, mais le verset que j'ai retenu, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. L'héritage. En fait, en rentrant à la maison, Dominique a dit, ah mais, ce serait intéressant d'explorer le thème de l'héritage dans la Bible. Et si on parle d'héritage aujourd'hui, ça prouve déjà une chose, c'est que j'écoute ma femme quand elle me parle. Et en fait, ça m'a poussé pendant la semaine à explorer, mais qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'héritage. Et ce serait en quelque sorte, Jean-Yves, notre fil conducteur. Toi, tu aimes explorer les thèmes de la Bible. Oui. Et donc, je crois que tu as essayé d'explorer aussi.
Oui, oui.
Est-ce que tu pourrais nous lancer avec un texte du Nouveau Testament?
Eh bien, on y va. Matthieu, que j'aime beaucoup, 21, du verset 33 à 38. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne.
Voilà, donc
on est dans le thème. Il l'entoura d'une haie Il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Faut suivre, pardon. Et donc, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de la récolte. Mais les vignerons s'emparèrent des serviteurs, ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant, « Ils auront au moins du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se mirent et se dirent entre eux, « Voilà l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. »
Tuons-le et emparons-nous de son héritage. Mais on retrouve exactement la même idée qu'habitait Naboth et Jézabel. Et on peut dire que ici aussi, il y a l'absence de l'idée qu'il y a un maître de la vigne à qui un jour il faudrait rendre des comptes. J'aimerais juste souligner en passant la patience étonnante du propriétaire qui a envoyé les uns, ensuite les autres, et ce traitement horrible qu'ont reçu ses serviteurs, ça l'a pas empêché de continuer à patienter et même d'envoyer son fils, l'héritier. Et ils en donnaient toujours à nouveau une chance à revenir en arrière. Jusqu'à ce que un jour, c'est la suite de l'histoire, le jugement tombera. Voilà, donc on retrouve un peu même idée, Akab, Naboth.
Exactement, tout oui. À fait. Mais j'aime beaucoup les textes bibliques. J'en ai un autre pour préciser un peu cette notion de justement de vigneron. Un homme avait deux fils.
C'est juste le récit avant, hein?
C'est le récit avant oui. de ce que j'ai lu tout à l'heure, bien sûr. Il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit « Ouais, je veux bien. Je veux bien. Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux fils fait la volonté du père ? Lequel ? Les chefs des prêtres et les anciens du peuple répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret comme le Fils pour croire en lui.
Alors, quoi de plus naturel pour ce père propriétaire? Il voulait introduire ses fils dans l'entreprise familiale. Quelque part, initier les enfants à une prise de responsabilité. Ils sont sans doute les deux les héritiers qui sont prévus par la suite. Le père prépare l'entrée en possession de l'héritage. L'un, il dit non, j'en veux rien. Puis il fait demi-tour. L'autre, le deuxième, on ne sait pas qui est le plus jeune ou l'aîné, l'autre ne fait pas demi-tour. Oui, il fait demi-tour, mais dans le mauvais sens, il fait semblant. C'est le contraste qui nous est proposé dans cette parabole. Et c'est l'attitude de cœur de ses enfants. l'attitude apparente de l'un et l'attitude de cœur. Et c'est ça, j'aimerais qu'on explore un peu plus loin. La porte est ouverte, cette histoire de collecteur d'impôts et prostituée. La porte est grande ouverte aux pêcheurs de toute espèce, de toutes sortes. Mais je crois qu'on va aller plus loin pour voir mais quelle est l'attitude de cœur qui décide de ce service possible.
Ça tombe bien parce que j'ai la suite.
Ok.
C'est dans Luc 15. C'est aussi une histoire de deux fils. Celle-là, elle est un peu plus longue, je vais vous la raconter vite fait. Vous connaissez, c'est l'histoire des fils prodigues, comme on dit. Le plus jeune, il demande la part d'héritage à son père et il s'en va. Bon, à l'époque, c'était pas Justin Bieber, mais c'était tout comme. Il a tout claqué en concert, en plein de choses. Et puis à la fin, il se pose des tas de questions. Et il est jusqu'à élever, à garder les cochons. Et puis son frère aîné, lui, vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait rien, il travaille pour son père. Et il bosse, et il bosse, et il bosse. Et puis à un moment donné, le plus jeune frère en a vraiment marre, il se dit, mais dans quel état je suis tombé? Dans quel état? Et donc il réfléchit et puis il dit, moi, je pense que les serviteurs de mon père sont mieux traités que moi maintenant. Je vais retourner voir mon père et puis je vais m'humilier devant lui et puis on verra ce que ça donne. Et puis il revient et c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est la fête. Mais le grand frère, il dit, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Pourquoi tu fais donc la fête avec ce jeune-là, avec mon petit frère ?» Et le père répond, « Mais mon enfant, il dit au grand, tu as toujours été avec moi et tout ce que j'ai là, tout, mais c'est à toi. »
Donc, il avait l'héritage là, présent devant lui, mais l'histoire nous révèle à nouveau l'attitude de cœur du grand frère cette fois. Le fils qui a fait demi-tour, qui était accueilli les bras ouverts, il sait qu'il a tout perdu et que tout ce qu'il a reçu par la suite, c'est cadeau. Il n'avait plus droit à rien du tout. Il a fait demi-tour pour se connaître, gracié, libre, reçu tout gratuitement. Tandis que le frère aîné, son service ressemble davantage à l'esclavage. Tous les jours, jamais reçu quoi que ce soit. Comme bonus, il est enfermé dans un service. Ce matin, on a entendu en introduction de culte, personne nous a obligé de venir ce matin. J'espère que c'est le cas. Le grand frère, le frère aîné, était dans une obligation de service. Un service, on peut dire, à contre-cœur, en tout cas pas librement consenti. Je crois qu'il y a là possible juste de revenir sur l'histoire que tu as racontée en début.
Mais
avec les enfants.
Une chose à dire intéressante que je croyais que tu n'avais pas terminé. Pour rappeler de cette histoire avec les... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une idée? Le premier serviteur, celui qui en avait beaucoup. Pardon? Voilà, il l'a mis à la banque et ça a rapporté énormément. Le deuxième, pareil. Le troisième, pas pareil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a caché dans le sol. Parce que, pourquoi? Exactement, vous êtes formidables. Donc celui qui n'avait pas reçu, qui n'a reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. » Quelle fut la réponse du maître? C'est bien, au moins j'ai récupéré la mise de départ, j'ai rien perdu. » Il lui dit ça? Non, pas du tout. Serviteur mauvais et paresseux. Dur, très dur. Ce serviteur n'a pas compris. Et il s'est mis dans la peau d'un esclave, au service de son maître, terrassé par la peur et la volonté de ne pas se faire remarquer. On peut dire qu'il a ramassé. Mais Roger, on parle de parabole, on parle d'histoire, mais tu n'aurais pas quelque chose de réel, parce que les paraboles, c'est pour expliquer quelque chose, mais vraiment quelque chose avec l'héritage qui aurait touché directement quelqu'un. Tu dois avoir ça, non?
Voilà, alors peut-être pour essayer d'aller plus loin dans notre réflexion à travers la Bible, en tout début, on se souvient d'Abraham. Mm-hmm. Il avait un serviteur dans la maison qui, il pensait, allait hériter de tout, Eliezer de Damas. Mais, en fait, il y avait un fils qui devait venir pour entrer dans tout l'héritage. Et c'est un peu la progression que j'aimerais suivre. En hébreu, nous lisons que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Mais Christ, ce passage continue, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous. Donc, de serviteur, de progresser de l'idée d'un service dans l'obligation à une autre position, statut de fils. Et puis, je crois que quand Jésus dit, mais Jean-Baptiste, il était le plus grand de tout dans l'Ancien Testament, mais le plus petit dans le royaume de Dieu, est plus grand que lui. Il était question de Jean juste avant. Et puis donc, dans le Nouveau Testament, nous entrons dans cette idée qui est développée dans les Galates, que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et je vous lis la suite dans le 4e chapitre de Galates, où c'est sortir de cette mentalité d'esclaves, serviteurs esclaves, pour trouver notre vrai statut de fils, de fille. Voilà ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs, jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né sous la loi, né d'une femme, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, non pour devenir ses fils, mais parce que nous sommes ses fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, fille. Et si, puisque tu es fils, fille, tu es aussi héritier de Dieu par Christ.
Tu confirmes bien qu'on est actuellement dans le même contexte que Galates.
Nous.
Oui, nous.
Nous, effectivement, on est sortis de la mentalité d'esclave pour entrer, avec difficulté souvent, dans la réalité des enfants bien-aimés du Père. L'esclave, lui, il a accepté dans la maison, on est bien d'accord, à cause de ce qu'il fait. Il faut être performant. Le fils, la fille, est accepté dans la maison à cause de la relation, ce qu'il est, ce qu'elle est. D'un côté, c'est grâce à la labeur, de l'autre côté, c'est grâce au lien familial. Et il y a l'un qui doit produire, l'autre, c'est sa position qui compte. En fait, on parle d'un côté de performance, de l'autre côté d'appartenance. Donc, et si il arrive échec, mais l'esclave peut payer très cher, on l'a vu, sa place est en danger, mais pour le fils ou la fille, des réprimandes, oui, mais c'est éducatif, ce qui souligne l'appartenance. On peut dire que les uns sont embauchés à durée déterminée. Le fils, la fille, c'est une embauche ferme pour la vie et l'au-delà. On est soit esclave ou soit libre dans la maison.
Oui, mais être un enfant, c'est pas si mal. On a des tuteurs, des administrateurs, on est dépendant, et la liberté. C'est quand même génial, quand même, la liberté. Donc, enfant, serviteur, mais en fait, revenons à Naboth, parce que c'est quand même le départ.
Oui, oui, il a payé très cher pour garder son héritage. Et on peut dire, pauvre Naboth. Moi, j'aimerais dire, pauvre Ésaü. Pauvre Ésaü. Quelle est la valeur qu'il a placée sur son héritage, son droit de fils aîné? Le prix d'un repas, en plus des lentilles. Mais il a méprisé son héritage. Pauvre Ésaü, pauvre Ruben. Vous souvenez comment lui, il a perdu son droit d'aînesse? Il est allé coucher avec la belle Bia, servante de son père. Perdu son droit d'aînesse. Pas pauvre Naboth, pauvre Ésaü, pauvre Ruben, pauvres sont ceux qui regardent que le présent et qui ont oublié l'héritage qui leur est réservé.
Mais, ironie du sort, on parle de Naboth, mais son héritage, il est dit dans la Bible qu'il le retrouvera. D'ailleurs, il est même enrichi avec le sang de Jézabel et de Akab.
Il le retrouvera. Ça c'est l'essentiel que nous sommes en train de dire. Naboth n'a pas perdu son héritage. Son espérance a fait qu'il a tenu bon, même devant la mort, face à la mort. Il n'a pas abdiqué. Il regardait plus loin, au jour où l'injustice ne sera plus, où ce sera l'entrée dans le royaume que quelqu'un a décrit comme la création guérie. Je ne sais pas comment vous voyez le royaume, mais il me semble que c'est proposé notre création renouvelée, guérie, où Naboth, peut-être, le maître va dire, mais voilà la vigne maintenant dont tu vas t'occuper dans mon royaume. Naboth n'a pas perdu son héritage. Et l'héritier, voici l'héritier, le fils de notre parabole, lui non plus, il n'a pas perdu son héritage. Mais à cause de la joie qui lui était proposée, il a méprisé la honte. Il a supporté la croix. Et il s'est assis à la droite du Père. Il est entré dans l'héritage qui lui était réservé.
Est-ce bien de ce type d'héritage dont il est fait mention dans 1 Pierre 1, 3,
alors,
6 ?
Alors là, juste avant d'écouter ce texte, j'aimerais juste retracer, j'espère, ce qu'on a vu. Il y a une image dans l'Ancien Testament pour le serviteur qui choisissait librement de rester dans la maison du maître une fois que le temps de servitude était terminé. Vous pouvez lire l'histoire en Exode 21. Il se faisait percer l'oreille. En Christ, notre temps d'esclavage est terminé. Les temps ont été accomplis. Et nous choisissons librement de servir, plus dans une mentalité d'esclave, mais en tant que fils et fille devenus héritiers dans la maison du Père. C'est l'héritage à ne pas céder à la Naboth, à ne pas se laisser prendre, c'est ça. La liberté de servir, non pas dans l'obligation, mais sans contrainte, avec bonne volonté. Entre parenthèses, la bonne volonté qu'on trouve beaucoup ici à l'EM. Parce que c'est dans la confiance des enfants bien-aimés du Père que nous servons. Mais il faut être au clair que tout tend à nous tirer en arrière vers cette idée d'obligation, vers la contrainte des lois. Et ainsi, on cède temporairement l'héritage de la liberté reçue. Donc, notre défi, c'est maintenir le terrain de la grâce, fort de cet accueil, quand nous avons fait demi-tour dans la repentance. L'accueil que nous avons reçu en retournant dans la maison du Père qui nous aime. Parce que, effectivement, et là on y arrive, il y a un héritage qui nous est réservé. On va s'en souvenir tout à l'instant en prenant la scène. C'est scellé par la mort du testateur. Héritage qu'on ne peut pas perdre.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, et vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie.
Donc, en conclusion, pour terminer, là, Pierre évoque cet héritage qui nous est réservé dans le ciel. L'apôtre Jean va voir la nouvelle Jérusalem prête comme une épouse qui va descendre à un moment donné pour que nous puissions vivre dans cette terre guérie, renouvelée, parfaite, sans injustice, et vivre vraiment l'espérance, l'héritage qui nous est réservé. En attendant, nous servons non pas dans un esprit de serviteur esclave, mais dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Voilà, nous sommes passés de l'idée de serviteur à fille et fils bien-aimés du Père.
Justement, tu parlais de Sainte-Seine, on va préparer la table, mais le Maître aime se réjouir à table avec ses serviteurs libérés. Venez, mangeons et réjouissons-nous de ne plus être esclaves.
Oui, peut-être on peut l'exprimer dans la prière.
Tout à fait.
Je crois que chacun peut s'exprimer dans son cœur, quelques-uns à haute voix, et je terminerai ce temps de prière. Je ne céderai pas l'héritage de mes pères. Te bénissons de ce qu'il y a un héritage qui nous est réservé dans les cieux, prêt à être révélé bientôt. Seigneur, merci de ce que déjà tu es venu pour nous donner force de tenir ferme, résister à brader pour un plat, pour une aventure, parce que nous gardons les yeux fixés sur toi, sur cette joie qui nous est réservée. Te louons de ce que tu nous as ouvert la porte. Et nous désirons te suivre, toi le serviteur, parfait, fils de la maison, avec qui nous sommes devenus les co-héritiers. Béni sois-tu, Père, pour ton plan éternel. Amen.
Son amour ne s'éloignera pas.